Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à chacun, nous allons ouvrir notre Bible et nous allons partager un message. On avait abordé il y a une quinzaine de jours ce que j'ai nommé la trilogie humaine. On va y revenir, on va donner une suite, si vous le voulez bien, avec des images. Ce matin, on va essayer d'illustrer tout cela et je pense que ça peut être un formidable encouragement, une bénédiction pour chacun d'entre nous. On va commencer par la lecture du psaume 107, une des parties de ce psaume, parce qu'il est quand même assez long. On va lire à partir du verset 23. Voilà donc le psaume 107, si vous voulez bien. Verset 23. Et ensuite, nous nous reporterons sur un texte éminemment évangélique, puisque c'est dans l'évangile de Jean. Alors, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux et descendait dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Seconde lecture dans Jean, je vous l'ai dit il y a un instant. Chapitre 6, versets 16 à 21. Autre épisode qui nous parle un peu de tous les dangers et les périls qu'il peut y avoir lorsque nous ne sommes pas sur notre élément propre, la terre. Il s'agit de la mer, là. Alors, quelquefois, on se sent insécurisé au milieu de l'océan. C'est tout à fait normal parce que nous ne sommes pas des poissons. Hein? Alors, Jean 6, verset 16. « Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Le port désiré, le port choisi, celui où on veut parvenir, là où on veut arriver. Dans l'une et l'autre des lectures, psaume et puis l'évangile de Jean, eh bien, ces deux récits nous parlent, vous l'avez compris, de la mer, de bateaux, dans le deuxième cas d'une barque où se trouvent les disciples et Jésus. Mais il nous est dit également dans les mots qui sont formulés de grands vents, de tempêtes, de tourbillons, de flots déchaînés, de matelots éperdus, de peur, d'angoisse. Et tout cela, naturellement, dans cette deuxième partie, dans ces expressions, hein, vent, tempête, hein, peur, angoisse, hein, ça nous parle de la faiblesse et de la fragilité humaine, c'est-à-dire de notre faiblesse, de nos faiblesses, de la violence peut-être des éléments autour de nous et parfois aussi en nous. Parce que quand il y a de la tempête quelquefois à l'extérieur, il y a aussi une autre tempête à l'intérieur de nous-mêmes, qui est l'inquiétude, le tracas, l'angoisse, l'anxiété, toutes sortes de choses. Et tout cela génère de la souffrance. Et c'est précisément sur ce sujet que j'aimerais encore une fois de revenir, parce qu'il y a tellement de besoins humains, il y a tellement besoins à répondre dans notre humanité, même au sein même de l'Église, que je pense, Paul ou Pierre le dira, mais je ne me laisse pas de vous répéter les mêmes choses, parce que cela vous est salutaire, vous connaissez les textes, hein, naturellement. Et puis, soudainement, nous l'avons lu, l'apaisement va se produire, et qui va laisser apparaître, tout simplement, eh bien, la destination à laquelle Dieu nous appelle, et la destination que nous avons peut-être nous-mêmes choisie. Un port qui est appelé un port désiré. Aspirer à arriver dans le bon port, à destination, là où nous serons vraiment en sécurité, là où nous pourrons vivre en paix et que l'on va atteindre naturellement sans dommage. Alors c'est vrai que toute traversée travers l'océan, quelquefois c'est le calme plat, mais quelquefois il y a des coups de tabac, hein. Nous avons au milieu de nous notre cher capitaine de la marine marchande qui m'a raconté bien souvent des histoires après une carrière, après des décennies d'avoir fait dans tous les sens le tour de la Terre. Et c'est vrai que quelquefois ça se passe bien, mais quelquefois ça se passe pas toujours très bien. Et qu'est-ce que l'homme, une coquille de noix au milieu de l'océan, hein, qu'est-ce que l'on peut faire? Alors, si on a notre habileté naturelle, on peut toujours trouver des solutions et trouver des moyens, mais c'est pas seulement de regarder autour de nous et à l'horizontale quelquefois, quand le danger nous dépasse, il faut regarder vers le ciel. C'est bien de cela justement, je voudrais vous entretenir. Écoutez bien, dans les deux textes, l'un et l'autre, l'Éternel les conduisit et ils arrivèrent au port désiré. Dans le second, aussitôt que Jésus est monté dans la barque aborda le lieu où ils allaient. C'est formidable. Et je crois que il y a quelque chose de formidable, et moi je crois que je voudrais que ce message soit un message heureux et joyeux. Parce que quand on est au milieu de la mer et qu'il n'y a plus d'horizon, enfin que l'immensité autour de nous, on ne voit plus depuis bien des jours et des jours le rivage, quelquefois on peut se poser des questions. Et quelquefois on ne sait plus tellement où on en est rendu. Est-ce qu'on va vers l'Orient? Est-ce qu'on va vers l'Occident? Est-ce qu'on va vers le Nord, le Midi? Moi, le marin chevronné que je suis, je pourrais pas vous dire où je serai à ce moment-là, hein, parce que j'y connais rien. Alors, d'ajouter ceci, c'est que la vie humaine est une véritable aventure. Entre un port de départ et puis un port d'arrivée. Une aventure où l'on quitte un endroit pour en atteindre un autre. Et ça a pris des proportions tout à fait, et une signification et un sens tout à fait particulier pour nous. Depuis que nous sommes chrétiens, figurez-vous, parce que nous étions partis d'un port avant de connaître le Seigneur, mais nous ne savions pas où nous allions atterrir. Enfin, la destination, nous la savions comme tous les humains. On sait que ça se finit par, voilà, vous connaissez, je prononce pas le mot, mais vous savez comment ça se termine. Et à 100%, ça se termine comme ça. Hein. Mais depuis que nous avons rencontré Jésus, nous sommes bien partis peut-être d'un port incertain pour arriver dans un autre endroit où il y a des certitudes. Et en raison de la foi que Dieu a mis dans notre cœur, nous avons des certitudes du port que nous désirons, auquel nous aspirons, pas trop tôt naturellement, mais on sait qu'il existe celui-ci. Nous avons une feuille de route. Depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes plus dans, finalement, eh bien, le doute. Et c'est situé, si nous voulons remettre dans le contexte de notre humanité, c'est situé aux deux extrémités de l'existence. Mais il faut bien le dire, que de tempêtes, que de souffles, que de flots agités, que de remue-ménages qui viennent briser, souvent, ou endommager les esquifs que nous sommes, parce que on n'est pas grand-chose, hein. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, nous dit le psalmiste, hein. Je le disais, une petite coquille de noix, hein, qui essaie de se frayer un chemin, voilà. Et il y a parfois aussi, eh bien, dans la vie des hommes qui ne connaissent pas Dieu, parfois et malheureusement dans la vie des hommes qui connaissent Dieu, de tragiques naufrages. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot naufrage revient quelquefois, plusieurs fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, où il nous est parlé de « un tel a fait naufrage quant à la foi ». Un autre, eh bien, a fait naufrage aussi par rapport à sa fidélité en Dieu. C'est triste, hein, les naufrages. C'est triste. C'est quelque chose de qui nous parle et c'est tragique, naturellement. Et cela avant d'avoir atteint le but. Parce qu'il y aura un but où nous ne ferons plus naufrage et ça n'existera plus tout ça. Alors il y a des images impressives à travers les mots que j'ai voulu citer tout à l'heure et qui nous donnent à réfléchir. Et j'aimerais comparer le bateau, le navire, l'embarcation, la barque, à la vie d'un homme. Si vous voulez bien, ça va être très imagé hein, ce matin, à la vie d'homme ou la vie d'un homme. Certains navires, figurez-vous, quittent le port sans destination précise. Ils vont au gré des vents, au gré des flots, en disant, bien, nous allons vivre une aventure. Il y a des gens qui font ça, hein. Ils partent, ils quittent un port, et puis ils se disent, bon, on va voir. On pense qu'on peut aller par ici, et puis si les vents sont contraires, on va revenir par là, etc., etc. Il n'y a pas de destination, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de plan particulier. Ça fait partie de ces bateaux qui vont à l'aventure sans destination. Surtout quand on ne sait pas naviguer. Alors là, ça vous aide. Parce que vous n'avez plus rien à faire, sinon vous laissez porter et sans savoir où on va. Certains bateaux sont finalement, certains ne sont pas armés pour affronter la haute mer. Si vous avez un petit canot pneumatique et que vous dites « je vais aller en Amérique », c'est courageux, il y en a qui l'ont fait, hein. Hein, Alain Bombard l'a fait dans les années 50, et je crois qu'il a même fait le tour du monde, hein, dans un canot pneumatique, c'est très très courageux. Alors, c'est vrai, ils ne sont pas préparés pour affronter finalement cela, donc ils sont inadaptés et mal préparés. Ils n'ont pas fait les choses, ils se sont dit, c'est formidable d'aller sur la mer, c'est formidable de prendre un bateau, et puis je me lance à l'aventure, mais ils ont oublié des choses, et il y a une chose qui est cruciale, c'est que quand bien même nous sommes sur l'eau, méfiez-vous, la mer elle est salée, et emportez quand même une bouteille de Vittel, parce que vous allez en avoir besoin. Hein, comprenez ce que je veux dire, hein, c'est un petit clin d'œil que je fais au passage, et ça c'est ça fait partie d'une inadaptation, c'est ça. Voilà, vous avez compris, ou je vous laisse comprendre. Dans ces circonstances, il faut mieux quand même avoir l'équipement nécessaire, mal préparé. D'autres, beaucoup plus téméraires encore que les premiers, finalement, tentent le danger au risque de tout perdre. Vous savez que pendant des siècles et des siècles, passer le Cap Horn, c'était pas une petite affaire. Hein, parce que à certaines époques, et même je pense en tout temps, il y a des déferlantes, il y a des vagues qui sont gigantesques dans un contexte finalement très très hostile. Et il y a eu beaucoup de bateaux qui sont passés par le fond. Hein, parce que le froid, les vagues, le brouillard, toutes sortes de choses, hein, on les appelle les 40e rugissants. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et c'est terrible cela. Ou les caporniers, ce qui revient au même. D'autres encore, faute de vent favorable. Vous savez, quand vous prenez la mer, vous voyez d'où vient le vent, vous jetez un petit peu de sable et vous voyez où ça, dans le sens où ça va. Hein. Donc, faute de vent favorable et suffisant, eh bien, on errait, on tournait en rond, tout simplement, sans réellement avancer. Et là, ils ont fait du surplace, ils étaient en quelque sorte au parking. D'autres ont échoué sur des écueils, qu'ils n'avaient pas vu à temps. Ils savaient bien que la contrée était dangereuse. Vous savez, même aussi sur nos côtes, hein, il y a des peurs dans lesquelles, ou des accès. Mais si vous voulez dire, ben voilà, je vais débarquer sur cette plage, faites attention, parce que si vous êtes à marée haute et que vous n'avez pas vu le fond, il y a quelquefois des écueils qui sont en dessous. Et là, vous vous brisez. Donc, il y a toutes sortes de situations comme ça. En somme, la vie est un voyage. La vie, c'est une aventure que l'on peut comparer, que l'on peut mettre dans cette configuration. Mais c'est un voyage aux mille dangers. Alors, c'est vrai que nous sommes dans une société où on fait tout pour le zéro de risque. Hein, vous l'avez vu, hein, tout est fait pour essayer de préserver, de faire ceci et cela. On a des assurances tout risque. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des catastrophes. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui échouent. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui font naufrage. Il y en a qui se cassent, qui se brisent. Et c'est quand même terrible tout cela, hein. Un voyage aux mille dangers, où il faut partir, mais surtout arriver et bien arriver. Vous connaissez cette histoire, je vous en reparlais tout à l'heure, cette histoire de Paul, qui fait un voyage qu'il n'avait pas choisi, parce qu'on l'oblige à monter sur un bateau. un grand bateau qui va partir de Césarée et qui va, normalement, qui doit arriver en Italie. Et Paul est prisonnier, il doit être jugé par l'empereur. Imaginez-vous, c'était pas une petite affaire. Et il va partir sur ce bateau avec 273 personnes. Et vraisemblablement, il est pratiquement le seul ou avec quelques chrétiens, et tout le reste, ce sont des gens qui, voilà, des gens du monde, tout simplement. Et il va vivre des choses assez dramatiques, mais il nous en parle, et je vous en reparlerai, parce que c'est intéressant de prendre un petit peu la mesure de cette aventure. On part, normalement, on a prévu une destination, mais à laquelle on n'arrivera jamais, parce que il va y avoir tellement d'impondérables, et la vie, elle est faite d'impondérables, des choses où nous pouvons véritablement dire, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, il y a des choses qui sont oubliées, et des choses qui arrivent et qui n'étaient pas prévues au programme. Ça, c'est sûr, on le sait. Dans nos deux récits, et j'y reviens, la comparaison entre les deux, nous est dépeint l'histoire d'hommes partis sur les eaux pour y travailler ou pour voyager. Le psaume nous dit que c'était des gens qui étaient partis pour travailler sur la mer. Les travailleurs de la mer, selon Victor Hugo. Et puis, d'autres étaient partis pour voyager, de passer d'une rive à une autre. Et ce jour-là, cette nuit-là, il n'y avait pas Jésus dans la barque. Il était resté un peu en arrière. Un point de similitude entre ces deux textes, c'est la totale insécurité où il est question d'abîme. Je reprends les mots, hein, de nuit, de péril et conséquemment de détresse, avec quelques reculs, quelle que soit la vie, qui ne s'identifierait pas avec ces mots chargés d'expériences douloureuses. Ouais. Parce que ce sont des mots que nous connaissons, l'abîme, l'inquiétude, le tracas, le péril, les dangers, la nuit, on voit quand même mieux le jour, ça c'est sûr. Et lorsque les choses sont dites de cette manière, et lorsque les écrivains sacrés, que ce soit le psalmiste ou que ce soit, eh bien, Jean, ils nous parlent de choses qui est tout à fait connues de notre vie, dans notre vie d'homme. Et nous savons que toute notre société est faite avec quelquefois des interdits préservateurs, ne serait-ce que dans la circulation automobile. Et puis dans bien d'autres choses, il y a tellement de précautions à prendre. Parce qu'autrement, la vie est menacée, hein, trop souvent. Dans ce psaume, c'est Dieu lui-même qui, soudainement, eh bien, secourt providentiellement les naufragés. Nous l'avons lu ensemble. Il nous est dit qu'à un moment donné, eh bien, il dit, Dieu dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer, et les hommes qui étaient à l'intérieur de leur frêle embarcation, ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme, nous est-il dit, était éperdue en face du danger, à tel point qu'ils étaient saisis de vertige et ils chancelaient comme un homme ivre. Je ne sais pas si vous avez le pied marin. Vous avez déjà fait l'essai? Moi, je sais que ça ne me convient pas du tout, mais pas du tout. C'est toujours un grand plaisir de prendre le bateau, mais je suis vert. Hein? Enfin, vous comprenez ce que ça veut dire, vraiment le pied marin. Mais toujours est-il qu'il y en a qui, quelquefois, eh bien, sont cette dextérité, même quand ça bouge dans tous les sens. Quelquefois, quand je vois passer certains bateaux, là, sur la côte, et quand je vois la tempête, quelquefois, la proue, elle descend comme ça, hein, et les vagues qui passent par-dessus, je me dis, il y a quand même des gens à l'intérieur. Et je suis heureux d'être sur la terre ferme, parce que ça fait un drôle d'effet. Hein. Et nous comprenons un peu tout cela, c'est tout un enseignement, mais ça nous parle quand même. Alors nous apercevons que dans le premier psaume, c'est Dieu qui permet. On pourrait parler de la volonté permissive de Dieu de faire traverser des tempêtes à ses enfants, je dis bien. On n'irait pas tout seul, on n'aurait certainement pas choisi ce chemin-là, mais Dieu nous fait passer par là, tout simplement, parce qu'il a quelque chose à nous dire, parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Et nous les voyons secourus providentiellement, et c'est dans l'évangile de Jean que nous apprenons aussi cette autre chose, c'est que ce sont les disciples, cette fois-ci, qui crient, et qui vont solliciter à grands cris que Jésus monte avec eux dans leur barque. Jésus était resté sur le rivage, les disciples étaient partis, la nuit est venue, et au moment, finalement, de cette profonde obscurité, la tempête s'est mise à tout basculer. Pourtant, c'était des marins chevronnés, hein, les disciples du lac de Tibériade, hein, le lac de Galilée. Et nous voyons que ils vont crier, et ils vont dire « Jésus, viens avec nous, secours-nous, délivre-nous !» Et ils ont eu une salutaire réaction, hein, à laquelle, souvent, beaucoup d'hommes ne pensent pas appeler Jésus, vous vous rendez compte? Est-ce que ça ferait honte d'appeler? Est-ce que ça nous ferait honte? Est-ce que ça ferait honte à d'autres de nous entendre appeler Jésus à notre secours? Ben, certains n'osent pas. Paul nous dit, j'ai pas honte de l'évangile. Et chacun d'entre nous ne devrions pas avoir honte, de crier à Jésus quand ça va mal, d'implorer le Seigneur, de lui porter notre détresse. Parce que vous savez, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est l'histoire du psaume 107. N'ayez pas peur de crier à Jésus. Oui, crier, c'est plus que prier. Mais n'ayez pas peur de le faire. Alors, c'est ce qui s'est passé. Les disciples ont crié, « Jésus, monte avec nous, sois avec nous !» Ils ne pensaient pas qu'ils allaient tous, y compris Jésus, se noyer. C'est qu'ils savaient que plutôt le contraire, que si Jésus était avec eux, eh bien, ils ne se noieraient pas. On n'a pas envie de mourir, hein. On n'a pas envie de faire naufrage. Eh bien, appelez donc Jésus, et vous ne ferez jamais naufrage. C'est là où l'image rejoint la réalité. La réalité de la venue de Jésus dans le monde des hommes, et ça fait 2000 ans qu'il est au milieu de nous, pour permettre en sa compagnie aux hommes, d'atteindre le port désiré. Ah oui. En tous les cas, il y a une chose que je comprends depuis que je suis chrétien, c'est qu'un enfant de Dieu, ayant Jésus en première place dans sa vie, non seulement sait où il va, mais il est assuré, autant qu'il sera fidèle, d'atteindre le bon port. Oui. Et nous le connaissons, nous l'exprimons à travers des cantiques, quand on parle du ciel, de la vie éternelle. On l'exprime à travers, c'est exprimé à travers la Bible très très souvent dans nos lectures. Oui, le Seigneur nous conduit, non pas vers le pays de Canaan où coule le lait et le miel, mais vers ce ciel de gloire, où il n'y aura plus de danger, où il n'y aura plus la mort, où il n'y aura plus de choses que nous connaissons sur la terre. Là, nous serons en sécurité, une sécurité parfaite. Oui, Seigneur, j'attends, et à mon réveil, tu me montreras ton image, nous dit un psaume. Ce sont des paroles qui sont chargées de, finalement, d'une certaine puissance d'espérance. Alors, sur cet océan tumultueux, nous disons cette parole. Les disciples voulaient le prendre avec eux dans la barque. Oui. Vous savez que quand nous déclarons Jésus comme notre sauveur personnel, lorsque nous nous faisons baptiser publiquement et que nous confessons notre foi en lui, c'est en quelque sorte que nous avons pris Jésus dans notre barque. Nous lui disons « Seigneur, viens. Seigneur, je m'engage à t'aimer, à te servir, à t'obéir tous les jours de ma vie. Il est avec nous. » Il est dans notre vie, il est dans notre barque. Et ça, ne l'oublions pas. Et vous, mes frères et sœurs qui êtes engagés aujourd'hui, il quelquefois avait des tremblements et des détresses, mais sachez qu'il est avec lui, vous n'avez pas besoin de le chercher. Il est en vous. Il est non seulement avec vous, mais il est en nous. Nous l'avons fait monter dans notre barque. Et encore une fois de plus, je voudrais quand même le souligner pour faire la différence et la transition, c'est que le dernier que le monde a appelé au secours, dans la traversée périlleuse de la vie, eh bien c'est encore Jésus. On se contente peut-être d'une demi-mesure, parce que finalement on a dit aux gens, eh bien ayez une religion et ça suffira. Eh bien c'est pas la religion qui va nous conduire au port désiré. Elle va peut-être nous entretenir dans une certaine moralité, mais l'évangile, c'est plus que la moralité. C'est plus que du moralisme. C'est véritablement une communion intime avec notre sauveur. Et c'est lui qui ne marche pas derrière nous, mais il marche devant nous pour nous montrer le chemin. Et surtout nous montrer les écueils et les dangers qu'il y a sur notre route. Et ça, nous le savons, nous l'avons si souvent expérimenté. Quelle promesse nous avons lorsque nous considérons l'écriture et que nous nous laissons instruire dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui les délivra de leurs angoisses. Ouais. Les hommes ignorent ce qu'ils perdent en méconnaissant Jésus. Ça me fait penser à David qui dit ceci, « Mais tu es mon souverain bien. » Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es le premier, tu es tout pour moi, tu es l'essentiel de ma vie. Mon véritable trésor, c'est toi, Jésus. Et quand on a ce trésor-là, eh bien, on peut naviguer. On peut aller très loin comme cela. Et je dis que c'est vraiment une sécurité, un repos, une sérénité, quelque chose de formidable. Moi, je voudrais vous parler de la paix. La paix qui n'est pas factice, qui n'est pas le produit des choses extérieures. Nous entendons de bonnes nouvelles, nous sommes heureux, les mauvaises nous attristent. Non, ça ne dépend pas des circonstances et des événements. Elle est en nous, cette paix. et des écueils et des situations difficiles. Il y en aura, nous nous en préparons et ne nous faisons pas d'illusions. Dans les mois, dans les années qui vont venir, dans ce début de ce siècle, qu'est-ce que nous allons voir et qu'est-ce que nous allons vivre? Mais si Christ est en nous, eh bien nous traverserons certainement, eh bien là, toutes ces tempêtes aussi. Avec cette foi au fond de notre cœur, ça c'est rassurant. Ça c'est quelque chose, parce que ça ne dépend pas de nous, hein. Les conditions politiques, les conditions mondiales, ça ne dépend pas de nous, mais nous pouvons être engloutis comme les autres. Et notre part, nous restons des hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous avons pris Jésus dans cette mer en furie qu'est le monde, dans cette tempête, parce que c'est furieux, hein, eh bien alors à ce moment-là, nous pouvons véritablement jouir du repos. Et peut-être même à l'étonnement de tous ceux qui nous voient et ceux qui ne partagent pas notre foi, de dire il a quelque chose de plus parce qu'il est en paix. Au sein de l'ouragan et au sein des vents contraires, il est en paix. Laissez-moi vous expliquer quelque chose pour vous aider. À la création, Dieu a fabriqué des vaisseaux humains. Je reste sur l'image du bateau. Alors je sais qu'à Saint-Nazaire, il y a des constructions navales. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand j'ai l'occasion, je vais voir un petit peu où s'en est rendu. Non pas que ça me concerne parce que je suis pas acheteur, mais je regarde quand même, parce que c'est quand même formidable ce qui peut se faire ici. Hein. Les bateaux gigantesques. Et attendez, celui qui va venir, il va être encore le plus grand. Hein. Et c'est fabuleux. Mais si nous nous reportons au premier jour, dans les prémices de l'âge, ou des âges, eh bien Dieu finalement a été, en quelque sorte... Eh bien, un fabricant de vaisseaux, mais c'était des vaisseaux avec un souffle. Ah, vous allez me dire, le vaisseau à voile, c'est toujours avec un souffle. Mais un souffle de vie. Et le modèle d'origine, sur la coque, il y avait marqué Adam, imaginez-vous, hein. Baptisé Adam. Et Adam, ça veut dire l'humanité, ça veut dire l'homme, dans sa généralité. Et Adam, quand il a été créé, dans les deux premiers chapitres, enfin dans le deuxième chapitre en particulier, eh bien, c'était excellent ce que Dieu avait fait. Parce que Dieu fait les choses bien, très bonnes. Et on pourrait dire que si nous voulons reprendre un terme de marine, c'était un super élément. Oui. Capable de traverser l'existence, de traverser la terre, de traverser cette création toute nouvellement sortie des mains géniales de Dieu et de rejoindre sa destination éternelle dans le bonheur et la paix de ce paradis que l'on appelait tout simplement l'Éden. Sans avatar, sans risque d'aucune manière, parce que là, c'était vraiment ce que Dieu avait créé. Vous savez que notre condition, on peut pas s'imaginer, parce que on pourrait pas s'imaginer le monde si le mal n'existait pas, hein. Parce que le mal, malheureusement, existe et il déforme tout, hein. Mais c'était les choses qui étaient ainsi, et moi, j'aime bien, je me prête à vouloir croire que Adam était un superbe navire. Un vaisseau extraordinaire, magnifiquement fait. Et la Bible nous révèle, dans ce fameux chapitre 3 de la Genèse, qu'il y a eu une terrible tempête dans le monde invisible. D'abord dans le monde invisible. Ce que l'on a appelé, et dont la Bible nous parle pudiquement, et quand même assez, d'une manière assez peu, nous avons peu de renseignements, mais néanmoins nous comprenons ce que ça veut dire. Parce que si c'est pas dit avec des mots très, très expressifs, en tous les cas nous en voyons les conséquences. Et il y a une tempête dans le monde invisible, vous ai-je dit il y a un instant, c'est la révolte de Satan. Un conflit cosmique entre Dieu le Créateur, ce Dieu juste, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu saint, trois fois saint, et puis un ennemi séduit par la révolte de devenir Dieu lui-même. Et là, il y a eu ce clash. Et comme le monde, comme la terre, comme l'homme venait sortir des mains créatrices, il y a eu ce défi sur l'homme, sur la création, sur le créateur, sur la créature, pour que tout, finalement, eh bien, se perdre dans le fond de l'océan, de l'enfer. Excusez-moi l'expression, mais au fond de l'abîme, en quelque sorte. Parce que vous savez que Satan, c'est le prince de l'abîme, hein. D'accord? Et la tentation à Éden, c'était tout simplement cette désobéissance d'Adam qui n'a pas écouté le conseil d'une menace sournoise, d'une menace qui ne se montrait pas, qui ne montrait pas son visage, mais qui était réelle, que Dieu connaissait, et il voulait prévenir sa créature qu'il y avait un danger sous ses pas, et qu'il ne fallait pas ceci, cela, c'était pas des commandements, c'était plutôt un avertissement préventif. J'aime bien le dire comme ça, parce que tu ne feras pas ceci et cela, ça c'est la loi, mais moi je crois que derrière la loi, il y avait aussi l'amour de Dieu pour sa créature, afin qu'elle ne se perde pas. Eh bien, ça a été le premier, la désobéissance d'Adam, on peut le dire de cette manière, a été le premier et le fatal écueil sur lequel s'est brisé le grand rêve de l'espèce humaine. Le navire s'est cassé. Tempête, ouragan, tsunami, dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce qu'on a appelé la chute. La chute qui a plongé l'humanité dans le péché que l'on qualifie le mal, et conséquence inéluctable, la souffrance, la peine, la mort. Dans cet ouragan de destruction, l'homme, superbement créé, en est sorti en lambeaux, meurtri, malade et mortel. Et c'est bien ce que nous connaissons. C'est bien ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Un monde sans hôpitaux, un monde sans tribunaux, un monde sans gendarmes, un monde sans armée. On connaît pas. On en est sorti en lambeaux, avec des scandales, avec des abominations, avec des choses innommables. L'homme est sorti en miettes, on peut dire. Et depuis Adam, tous les exemplaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu avait insoufflé, avait donné un souffle, il avait instillé un souffle de vie, et il avait dit à l'homme, multipliez et remplissez toute la terre. Nous sommes les exemplaires de ce modèle qui a été endommagé, hein. Oh, qui a assez donné quelques réparations pour flotter un petit peu. L'homme fait que du cabotage, hein, le long des côtes, hein, c'est tout, hein. Il peut pas aller en haute mer, hein, vous comprenez? Je dis dans la dimension spirituelle. C'est du cabotage, tout simplement. Il reste près des côtes parce que ça peut pas aller plus loin. Donc tous les exemplaires faits de chair et de sang ont été frappés de la même anomalie. Et cette anomalie, c'est que ces vaisseaux, ces bateaux, étaient sans gouvernail. Un gouvernail, vous savez ce que ça signifie? On peut toujours faire de la godille. Vous savez, la godille, c'est d'avoir un manche, enfin une rame, et puis de... Vous allez comme ça, voilà, hein, ça avance. Mais si vous voulez aller à Rio de Janeiro en godillant, vous allez être plutôt fatigué avant d'arriver au bout, hein, ça c'est sûr. Mais le gouvernail, il y a une propulsion naturellement, on va en parler. Mais le gouvernail, c'est ce qui permet d'orienter, de donner la direction et puis de maîtriser, gouverner, gouvernail. Celui qui est capitaine à bord, eh bien c'est lui qui est le maître, mais il a cet instrument qui permet justement, eh bien, de prendre la direction. En fonction, finalement, eh bien, de la propulsion, de la pression et de toutes sortes de choses. Écoutez bien. Comme par un seul homme, qui corrobore ce que je viens de vous dire, le péché, la chute est entrée dans le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, car tous ont péché. On n'en a peut-être pas tout à fait la sensation ou le sentiment, mais c'est bien ce que la Bible déclare et c'est bien ce que nous voyons, finalement, dans les faits. Et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'était véritablement l'essentiel de notre vie. La puissance de Dieu, l'autorité souveraine de Dieu dans notre vie, nous l'avons perdue. Dieu est caché, Dieu est... On ne sait pas, on le retrouve, hein. On peut le retrouver si on le cherche. Si on le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force, il se laisse trouver, figurez-vous. Mais on l'a perdu à l'origine. Et on a perdu aussi de là la vraie vie. Une vie qui mérite de porter ce nom de vie, et puis ensuite, cette suite glorieuse qu'est la vie éternelle. Imaginons un bateau sans gouvernail. Faut pas l'oublier, hein, Serge, hein, sur le gros, là. Tu ne l'oublies pas, surtout, hein, parce que là, ça va faire mal. Hein. Quelle destination peut-il prendre à ce moment-là s'il n'a pas de gouvernail? Où va-t-il aller? Il peut bien avoir des plans, il peut bien avoir tout ce qui est nécessaire pour se donner, eh bien là, une destination, mais ça ne va pas très loin, ça ne peut pas aller plus loin. Sans gouvernail et en dépit des apparences, l'homme possède un corps comme un bateau possède une coque. Et en dessous la ligne de flottaison, on appelle ça la carène. Comprenez? C'est ce qui fait la séparation entre... finalement, le sec et le mouillé. Je peux m'exprimer de ce côté-là. C'est ce qui, finalement, permet aux hommes d'être sur la mer, dans l'eau, sans être, finalement, et bien submergés. Et ça, c'est la vitrine, le corps. C'est la vitrine que l'homme se donne. et qui lui donne une illusion de vie. Une illusion de vie, c'est-à-dire qu'avec le corps, on peut dire on est vivant, on bouge, on fait de la gymnastique, on fait toutes sortes de choses. On dit il est vivant parce qu'il est, il bouge. Ça, c'est son corps. Il s'exprime à travers son corps, tout simplement. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, quelle importance nous donnons au corps, alors que l'homme ignore peut-être qu'il a une âme et qui encore moins un esprit. Comprenez? On mit tout sur le corps. Le corps, c'est le principal, on le voit hein, dans tout ce qui peut être fait. Au centre du bateau, il y a, et je parle de la marine ancienne, hein, c'est celle qu'on va retenir ce matin, il y a un mât sur lequel, un ou plusieurs mâts sur lequel on déploie des voiles. Alors il y a toutes sortes d'appellations, hein, et c'est ce qui fait la fierté et la majesté d'un bâtiment. Hein. C'est beau. Quand on voit rentrer, par exemple, comment il s'appelle, le bateau là qui est à Nantes, mais qui passe de temps en temps à Saint-Nazaire, le bateau école, le Bélème. Moi, il m'est arrivé de le voir il y a quelque temps, dans la brume, en rentrant là du côté de Saint-Marc-sur-Mer, hein, dans une brume, c'était magnifique. C'est vrai que c'est beau, hein. C'est plus joli qu'un bateau avec un tuyau là qui... enfin, avec le respect de ceux qui construisent des bateaux et qui sont au milieu de nous. Pardonnez-moi, mais c'est une fierté et une majesté. Hein. L'homme a cette image, en quelque sorte, il possède une âme qui pourrait être la représentation des voiles. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a quelque chose. L'âme, c'est tout simplement eh bien, l'élément, l'organe du sentiment, de la volonté, de la pensée, de l'intelligence. L'âme, c'est l'animation de la vie. Un corps sans âme est un corps mort, c'est ce que nous dit Jacques d'ailleurs dans son épître. Mais ce que nous le sommes par l'intérieur. Et il y a quelque chose de tout à fait intéressant, parce que nous sommes poussés par des vents dans notre âme. Nous sommes asservis à des pulsions, à des pressions du corps. Nous sommes et nous pouvons être ballottés sans cesse entre le bien et le mal. Culpabilité, satisfaction, toutes sortes. Mais finalement, eh bien, nous sommes jamais libres d'aller dans la bonne direction parce qu'il y a une contradiction, il y a deux natures en nous. Il y a une nature qui est celle, et chez les chrétiens en particulier, de faire la volonté de Dieu et puis d'un autre côté de faire notre volonté. Et il y a des vents qui soufflent de tous les côtés. Les vents qui quelquefois, eh bien, peuvent nous séduire en disant c'est le bon vent. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans la pratique, eh bien, on s'est trompé. Dans le sentiment, par exemple, dans l'affectif. Ça, c'est le vent qui souffle dans nos voiles. En quelque sorte, eh bien, notre âme, elle est déployée. C'est elle qui va mouvoir le bateau, le corps, vous comprenez, hein, la coque, et tout cela. Et ça montre que finalement, nous sommes vraiment des pécheurs. Nous ne sommes pas exemple du péché. C'est l'atavisme du péché qui parle à ce moment-là. Enfin, où est l'essentiel et qui fait défaut, c'est le gouvernail. Quand l'homme, cette humanité, n'a pas de gouvernail, eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Et puis en plus, il faut une boussole. On dit quelquefois à des gens, il a perdu la boussole. c'est des expressions, mais vous savez, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne parle pas comme ça. Hein. Il y a des choses. La boussole qui est remplacée par quoi? Je vous le donne à deviner. Par une girouette. Imaginez-vous ce que c'est qu'une girouette. Elle tourne à tous les vents. L'homme qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est une girouette. Il va selon ses désirs. Il va selon un petit peu comme le miroir aux alouettes, vous savez. Ah, ça brille. On court. Ah oui, la girouette. Mais attendez, hein, ne vous trompez pas, parce que si vous partez là avec une girouette à la place d'une boussole, vous risquez d'être déboussolé. Hein. Eh bien, c'est l'esprit, finalement. L'essentiel, c'est l'esprit qui met la créature en communion avec son créateur. Il ne trouve pas ses ressources en bas, dans son expérience, dans son savoir, dans sa connaissance, dans sa puissance d'homme qu'il est, mais il la met pas en lui, il la met en Dieu. Et c'est avec son esprit qu'il communique avec Dieu. Et Jésus le dira bien à la Samaritaine qui était une femme déboussolée, qui n'avait pas de gouvernail dans sa vie. Il dira ceci, ceux qui m'adorent, ce sont ceux qui m'adorent en esprit, en vérité. Ça, vous l'avez souvent entendu de ma part, hein, et on va encore en parler. Hein. L'impératif absolu de la nouvelle naissance. Un homme, quand il se convertit à Jésus-Christ, quand il se repent, convertit, il y a une autre étape, c'est la nouvelle naissance. Il devient un être dans l'esprit. Il peut bien avoir un corps, une carène, une coque. Il peut bien avoir une voile grande ouverte, c'est son âme. Mais la boussole, le gouvernail, alors là, C'est autre chose, c'est l'histoire de Nicodème. Il faut que tu naisses de l'esprit si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Comme l'homme ressemble à un bateau égaré sur un océan infini de problèmes, cherchant désespérément un chemin sans gouvernail. C'est pour ça qu'il tourne en rond. Vous avez vu dans la sortie d'Égypte, quand les Hébreux ont perdu de vue Dieu, par leur révolte et leur murmure, par leur rébellion, leur querelle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans un désert affreux, horrible? Ils ont tourné en rond. Ils n'avaient plus de gouvernail. Et ils n'avaient pas de boussole non plus, hein, c'est ça. Quand Jésus est venu dans le monde, dans ce monde désorienté, Jésus est venu au bon moment de l'histoire de l'humanité, il a regardé et il a dit cette expression, « Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et Jésus a eu compassion de cette humanité, comme il a compassion de chacun d'entre nous, comme il a compassion des hommes qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas Dieu encore. Comme il a compassion de mes frères, de mes sœurs, qui souffraient encore dans votre âme, qui souffraient dans votre corps, qui souffraient peut-être encore de dualité dans votre esprit. Ça, c'est la condition des hommes. Mais Dieu a compassion de nous. Mais vous avez trouvé un berger. Vous avez trouvé le bon berger. Vous avez trouvé celui qui peut conduire vos âmes et diriger vos âmes. Alors il est venu et il s'est présenté avec un titre. Il est venu pour nous dire qu'il était le Sauveur. Et quand on prend en considération le titre de Jésus, « Oin » pour sauver le monde, c'est que le monde était perdu, parce qu'on n'a pas besoin de Sauveur quand on n'est pas perdu. Il n'aurait pas eu ce titre-là si Jésus n'avait pas constaté de ses propres yeux, avec cette douleur infinie, que le monde était perdu autour de lui. Et c'était d'autant plus surprenant que quand il a regardé les premiers regards qu'il a eu, c'était sur son peuple. Un peuple qui avait été éminemment enseigné dans la connaissance de Dieu. Quelle profondeur et quel abîme, quel écueil que la religion de Dieu, la religion de Dieu pur, qui devient finalement une tradition, qui devient un rituel, qui devient finalement quelque chose où tout est dans la lettre et plus rien dans l'esprit. C'est une leçon pour nous. Faisons attention de tenir la route et de garder la mer. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, il s'est présenté tout simplement pour guérir. Il s'est présenté pour réparer. Il s'est présenté aux hommes pour restaurer, pour guider toutes ces embarcations humaines détériorées. Il y avait des trous partout. Il y avait des voies d'eau partout, d'une manière ou d'une autre. Le mépris des hommes sur les femmes, parce que la condition de la femme à l'époque, c'est pas tout à fait ce que c'était aujourd'hui. Et Jésus était vraiment un défenseur pour remettre la femme à sa place. Ça, c'est sûr. À travers cette domination des hommes par la religion, par ce despotisme, cette tyrannie des Romains, toutes sortes de choses. La misère, Jésus l'a vu. Et il est venu pour remettre toutes ces embarcations à flot, en disant « Ce n'est pas le désespoir, ne regardez pas vers le désespoir, mais maintenant je suis venu vous apporter une bonne nouvelle, et particulièrement aux pauvres, à ceux qui pleurent, à ceux qui ont faim, à ceux qui ont soif, à ceux qui souffrent d'injustice, à ceux qui sont malades dans leur corps, à tous ceux qui ont le cœur brisé, figurez-vous, aux aveugles pour qu'ils retrouvent la vision, à tous ceux qui sont captifs, à tous les opprimés pour qu'ils puissent voir leur chaîne tomber. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'était tous des embarcations qui étaient complètement à prendre l'eau, au bord du naufrage. Quel abîme de misère. Jésus savait que toute cette flotte humaine n'était pas en état de prendre la mer pour parvenir au port d'en face. Et le port d'en face, mes frères et sœurs, c'est notre grande expérience. Il s'appelle le ciel. C'est pas le ciel atmosphérique. Parce que là, vous pouvez déjà préparer à vous regarder la météo pour savoir le temps qu'il fait là. Mais c'est un ciel spirituel. C'est une dimension où nous serons délivrés de notre coq, que nous serons délivrés finalement de tout ce qui fait l'apparence, mais il y aura l'âme et l'esprit qui subsistera pour l'éternité. Et Jésus est venu nous préparer. Jésus s'est occupé de l'homme malheureux. Un petit rappel, bref, c'est que certains venaient à lui parce qu'ils avaient été abîmés par des tempêtes successives et quelquefois, comme Job, ça nous passe et ça coupe et ça nous met par terre, ça nous courbe. Ça peut être le labeur. Tiens, parlons du travail aujourd'hui. Il y en a qui travaillent pas, qui cherchent du travail, et il y en a qui travaillent, qui voudraient bien peut-être avoir un peu de souffle, parce que c'est trop. à travers les usures de la vie, à travers les drames, à travers les déchirures. Certains venaient parce qu'ils étaient hors d'usage. Ils existent ou ils existaient sans vivre. Attendez, il y a une différence entre vivre même vraiment et puis l'existence. Par suite de collisions et de faillites. Et aujourd'hui, on peut citer la séparation, le divorce, les injustices. Ah oui, c'est des collisions, ça. Et ça fait mal. Et ça fait pas mal qu'à deux personnes, ça fait mal à tout le monde. D'autres étaient écrasés par des vagues de fond, le chagrin et la dépression, ou l'angoisse. D'autres échouaient sur la grève, incapables de continuer la croisière de l'existence, les déceptions, les découragements de la vie. D'autres, et aussi vaste, ce mot d'autres que je viens de citer, d'autres au pluriel, est aussi vaste que la misère est immense dans notre monde. Et Jésus est venu, et toutes les pages de l'Évangile nous parlent de ce que Jésus s'est penché sur ces embarcations qui ne pouvaient plus naviguer, sur ces hommes, ces femmes, ces enfants, même ceux qui étaient possédés de toutes ces forces magiques, de toutes ces forces mauvaises. Il est venu les regarder et il nous est dit que le regard de Jésus était un regard de compassion et de miséricorde. C'était pas un regard de jugement où nous pourrions penser que « Ah, vous avez péché, ben maintenant vous allez en payer le prix ». C'est pas comme ça que Jésus est venu. Il leur a donné de l'amour par des paroles, par des gestes, par des regards, jusqu'à faire fondre un Pierre qui vient de le renier et qui va retrouver finalement la communion avec celui qui l'a sauvé par une véritable repentance. Mes frères et sœurs, quand nous péchons, nous pouvons toujours revenir à Jésus parce qu'il est un avocat pour nous. Ne vous cachez pas, comme Adam s'est caché. Non, on peut venir en disant, tu vois Seigneur, ma vie elle a été percée de tous les côtés, j'ai pris l'eau. Hein? Mon bastingage est complètement renversé, il est cassé. Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. C'est pas ça? C'est comme ça que je lis l'Évangile. Je ne l'ai pas lu autrement. Moi, je ne lis pas avec un regard qui me dit, ben voilà, c'est bien fait pour les hommes. Non, parce qu'on a été trompés. Le diable nous a trompés. Et on a cru davantage au mensonge qu'à la vérité. On a cru davantage à la haine qu'à l'amour. Et pourtant, le Seigneur nous l'avait dit tout ça. Tu ne toucheras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. On l'a touché. Puis enfin, je termine. Certains venaient à Jésus. Je suis en train de faire un petit tour d'horizon de l'Évangile. Certains venaient à Jésus parce qu'il comportait des vices de fabrication. Je n'ai pas dit des vices de création. Nuance. Vices de fabrication pour être libérés. Que ce soit toutes les peines qui sont attachées à nos hérédités physiques, morales, à travers des passions, à travers des vices, à travers toutes sortes. Ça, ce sont des vices de fabrication, pas de création, je tiens à le dire, parce que le mal, et je l'ai dit vendredi soir, le mal ne viendra et ne vient jamais de Dieu. Jésus a guéri. Il a réparé tous ceux qui sont venus à lui avec une condition. Lui faire confiance. La foi. Faire foi en sa personne et en ses paroles, en ses promesses. Et il les a rendues propres à la navigation. Écoutez, je me réjouis ce matin de ce que je partage avec vous ces moments et que je vous trouve en pleine forme. Si. Bah, écoutez, vous me souriez, vous me dites que ça va quand même. Hein? Vous savez comment on était avant. Avec tout ce qui nous a été bombardé. Hein, dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas choisies. Hein. On est arrivé, on était clopin. Hein, vous avez un pasteur qui n'est pas très sérieux. Mais une chose qui est certaine, c'est que le Seigneur nous a réparé. Il a commencé à faire le travail, parce qu'il faudra bien toute notre vie pour que... Moi, je sais que pour moi, il a du travail à faire avec moi. Ça, c'est sûr. Hein. Il le sait, moi, je le sais aussi. Je ne sais pas tout. Mais quand même, dites donc, si on est là et on reste fidèle, c'est qu'on se trouve bien ici quand même, non? Dans la présence du Seigneur. Et il a fait des choses extraordinaires. Il a commencé à nous réparer, figurez-vous. Et il nous a rendus propres à la navigation. Parce qu'avant, nous étions dans la tristesse. Et bien maintenant, nous pouvons manifester notre joie et notre bonheur. Nous chantons des cantiques et nous sommes heureux d'être chrétiens. Vous êtes heureux? Oh oui, ça va. Et nous pouvons poursuivre la vie. Parce que le Seigneur est avec nous et nous a fait du bien. Et tout cela s'entend par une décision que nous avons prise, que l'on appelle l'engagement, c'est-à-dire la vie chrétienne, avec tout ce que cela comporte. Nous avons reçu le pardon. Dieu nous a donné la capacité, et quelquefois il a du mal avec nous de lui obéir, la fidélité, la transformation, le service et tout ça. Voilà. Et puis je termine sur une dernière image. Un autre élément important d'un navire, c'est l'ancre. Parce que quand il est parti, faut qu'il s'arrête. Ça fait partie des freins, vous comprenez? Vous ne prendriez jamais votre voiture si vous savez que les freins sont morts. Ah bah ça roule, hein. À un moment donné, ça s'arrête. Soyez bien assurés, hein. L'ancre, qui est une solide fixation de maintien. Si vous allez voir les grands navires là qui sont fabriqués, c'est immense. Et même le trou béant là par lequel l'ancre descend et les chaînes, c'est pas du cordonné, hein. C'est sérieux. Et il y en a deux de chaque côté. Et la Bible nous en parle de ce maintien, de ce freinage, en quelque sorte, de cette solide fixation. Le livre des Hébreux nous dit, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance, et cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. » Cette ancre, elle s'appelle Jésus. Cette ancre, elle est matérialisée ou elle est exprimée par sa parole. Et quand on a cette ancre, que nous sommes dotés sur notre navire, dans notre vie, de ce bateau, et bien d'une ancre, nous ne pouvons pas flotter à tout vent de doctrine, nous ne pouvons pas nous emporter parce que nous sommes vraiment attachés. Et nous restons fixés sur Jésus, nous restons fixés sur ce qu'il nous dit, et nous aimons ce qu'il nous dit, et quand bien même il y aurait toutes sortes de vents, de droite et de gauche, des fausses doctrines, des aberrations, on va rester là-dessus, parce qu'il y a l'ancre de l'âme, et notre âme, elle est en Jésus. Les disciples, la première frayeur passée, ont imploré Jésus, leur seul espoir de salut dans la tempête. La foi est l'ancre par excellence, qui nous assure au plus fort de la détresse et des tempêtes de la détresse, une paix intérieure. Il n'y a pas de plus merveilleux pour un chrétien d'avoir cette paix à l'intérieur de lui-même. Il y a des frères et des sœurs qui passent par des épreuves en ce moment, je le sais. Soit par de redoutables maladies, ou par des perplexités, par toutes sortes de choses. Mais je sais que, et ils le montrent, ils le disent, ça les empêche pas de chanter, ça les empêche pas de plaisanter même, c'est parce qu'ils ont une ancre qui est la paix intérieure. Vous savez, c'est le plus grand de tous les trésors que nous avons reçus de la part de Dieu, être en paix, au milieu des tempêtes, au milieu de l'océan, tout simplement. Quiconque possède cette foi personnelle en Jésus-Christ est assuré, et en plus il est rassuré. Un dernier aspect sur lequel je voudrais terminer. Il y a une coutume dans la marine qui a été longtemps exercée et qui ne l'est plus, je ne pense pas aujourd'hui, c'est qu'en cas de naufrage ou de péril imminent, le capitaine faisait évacuer ses équipages et lui restait seul sur son navire jusqu'à disparaître avec son bâtiment dans les profondeurs de l'océan. C'était très, très héroïque. Et oui, c'est ce que nous avons vu, hein, on l'a souvent entendu cette histoire. Volontairement, le capitaine se sacrifiait lui-même. Il voulait mourir avec son navire. Et quelle analogie pouvons-nous faire? Quelle analogie pouvons-nous donner au passage du sacrifice de Jésus sur la croix? Parce que lui, il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, le capitaine, le commandant, le général, tout ce que vous voudrez dans les grades des plus hauts et les plus élevés en dignité, qui a volontairement donné sa vie, sacrifié sa vie pour que nous soyons sauvés. Eh oui, c'est ça, le sacrifice de la croix. On avait parlé d'une arche dans le temps, mais Noé en est sorti. C'était pas lui le sauveur. Mais Jésus, lui, il a voulu mourir avec le bâtiment appelé humanité. Il s'est fait homme pour nous. Il s'est donné finalement, et bien là, ce but. Il avait reçu ce but du salut. Et il est mort pour nous. Il est mort sur son bateau, en quelque sorte. Il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être sauvés. Lorsque nous étions encore sans force, empêtrés dans nos péchés, Christ, autant marqué, est mort pour les impies car Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions perdus sans Dieu, eh bien que nous puissions véritablement retrouver eh bien la vie, ou trouver la vie. Ils crièrent à l'Éternel, nous dit le texte, qui les délivra de toutes leurs angoisses. Dans le deuxième passage, ils voulurent le prendre, Jésus, dans la barque, et à ce moment-là, ils ont touché le rivage. Si nous voulons arriver jusqu'au bout, eh bien, nous avons là toute une leçon. J'ai titré ce message « Les naufragés du désespoir ». Ouais. Et j'aimerais vous donner une suite sur les délivrances de notre vie intérieure, les délivrances de nos blessures. Comme Jésus le dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. J'y viendrai, et ça reste dans la grande pensée de la trilogie humaine, le corps, l'âme et l'esprit. Nous prolongerons, Dieu voulant, si Dieu me le permet, mais nous aborderons ce problème combien crucial de chacun d'entre nous, même pour les enfants de Dieu que nous sommes, de bien nous connaître d'abord, mais de savoir que Dieu est celui qui nous guérit, celui qui nous sauve, celui qui nous vaut du bien, et... il n'y a rien à lui cacher de notre vie puisqu'il sait déjà tout. Et il connaît les solutions à nos problèmes. Il connaît le remède à nos maladies. Il connaît les réponses à nos questions. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. On va s'incliner quelques instants et on va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce et te remercier parce que moi je veux dire que tu es mon Père céleste. Tu es merveilleux. Et c'est vrai que je t'ai rencontré lorsque j'étais, c'est vrai, une coquille de noix sur l'océan de la vie qui commençait pour moi. Mais je te remercie de m'avoir pris dans ma jeunesse, de m'avoir appelé, Seigneur, lorsque j'étais encore tout jeune, et qu'il y avait une grande traversée, Seigneur, à faire. Qu'il y avait, sur cet océan de l'existence, certainement des tempêtes à rencontrer, des tsunamis, des vents violents, des creux et des hauts, Seigneur, comme les vagues savent le faire, les flots déchaînés. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons vécu tout cela. Mais moi, je peux rendre ce témoignage dans ma prière. Je te rends ce témoignage que jamais tu ne m'as abandonné. Tu ne m'as jamais laissé passer par le fond. Et pourtant, quelquefois, eh bien, les choses n'étaient pas loin. Mais Seigneur, lorsque je me suis enfoncé comme pierre dans les flots, eh bien, tu m'en as retiré, tu m'as tendu ta main. Et tu m'en as retiré. Je te bénis, je te remercie parce que je te demande maintenant, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, à l'écoute de ce message, ça ne soit pas un vent qui passe entre nos deux oreilles et qui est oublié, mais véritablement pour mes frères et mes sœurs qui souffrent, qui se demandent pourquoi ils vivent, où ils vont, d'où ils partent, ce qu'ils sont, Seigneur. Je te demande que tu les enseignes maintenant, après ces paroles échangées entre nous, que tu les enseignes que leur vie est précieuse pour toi, que tu les aimes, que tu connais leurs souffrances, leurs questions, leurs perplexités, et que la réponse c'est toi qui vas leur donner. Seigneur, dans le nom de Jésus, répare nos vies. Répare, Seigneur, tout ce qui est endommagé en nous, Seigneur. Soit que nous l'avons endommagé nous-mêmes par nos fautes, ou soit que nous sommes victimes de gens qui étaient sans scrupules, des gens qui étaient sans vergogne et qui nous ont endommagés, Seigneur, qui nous ont fait du mal et dont nous avons du mal maintenant à remonter la pente parce que nous sommes blessés. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est toi qui guéris encore aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Et je veux te demander, nous te demandons tous ensemble, Seigneur, ce matin, encore une fois de plus, nous t'invitons à monter dans notre barque. Nous ne voulons pas que tu sois à côté, mais nous voulons que tu sois vraiment avec nous, au milieu de nous, Seigneur, en nous, Jésus. Merci, mon Dieu. Bénis mes frères et mes sœurs. Fais-leur le plus grand bien. Ça, c'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.